Jean-Henri Merle-d'Aubigné, Histoire de la Réformation du XVIe siècle. Tome 4, Livre 13. Protestation de Spire et Concorde de Marbourg, 1526 à 1529. Édit Dauphin. Libéralisme de Luther. Winkler tué. Martyr de Fletstedt. Charpentier. Kaiser. Effroi du peuple. Othon de Pâques. Fraude de Pâques. Le Landgrave à Dresde. Le document. Alliance avec l'électeur. Ligue évangélique. Conseil pacifique des réformateurs. Parti mitoyen pris par l'électeur. Surprise des princes papistes. L'opinion publique. Danger et force de la réforme. Ces triomphes de l'Évangile ne pouvaient passer inaperçus. Il y eut une réaction puissante. Et en attendant que les circonstances politiques permissent d'attaquer en grand la réforme sur le sol même où elle s'était établie, et de la poursuivre par des diètes, et s'il le fallait, avec des armées, on se mit à la persécuter en détail dans les pays romains, avec des tortures et des échafauds. Dès le 20 août 1527, le roi Ferdinand, dans un édit d'Offen en Hongrie, établit un tarif de crimes et de peines dont voici un échantillon. Crime, manque d'aller à confesse. Peine, prison, amende. Crime, parler contre le purgatoire. Peine, bannissement. Crime, parler contre les saints. Peine, prison, bannissement et autres peines. Crime, dire que Marie a été une femme comme une autre. Peine, châtiment corporel, confiscation ou mort. Crime, prendre la Sainte Cène à la manière hérétique. Peine, de même, de plus, la maison où la scène a eu lieu, confisquée ou à jamais rasée. Crime, consacrer le sacrement sans être prêtre romain. Peine, mort par le glaive, par l'eau ou par le feu. Crime, nier la divinité ou l'humanité du Christ. Peine, mort par le feu. Telle n'était pas la législation de Luther. Link, lui ayant demandé s'il était permis au magistrat de mettre à mort les faux prophètes, entendant par là les sacramentaires dont Luther attaquait la doctrine avec tant de force, le réformateur lui répondit « Je suis lent quand il y va de la vie, même si l'on est grandement coupable. Je ne puis aucunement admettre que les faux docteurs soient mis à mort. Il suffit de les éloigner. » Depuis des siècles, l'Église romaine se baignait dans le sang. Luther fut le premier à professer les grands principes d'humanité et de liberté religieuse. Sans doute, il ne devait pas être aussitôt admis par tous les protestants. Les restes de papisme ne pouvaient s'extirper d'un seul coup. Les racines en étaient trop profondes. Mais Luther jeta son pain sur la surface des eaux, et avec le temps, on l'a retrouvé. On avait quelquefois recours contre la réforme à des voies plus expéditives que l'échafaud même. George Winkler, pasteur de Hall, ayant été cité devant l'archevêque Albert à Aschaffenburg au printemps 1527 pour avoir distribué la Seine sous les deux espèces, avait été renvoyé absous par ce prélat, au grand désappointement des chanoines. Le ministre, monté sur le cheval du fou de cour du prince cardinal, qu'on lui avait prêté par ironie peut-être, retournait chez lui en suivant un chemin inusité. Au milieu des bois, quand les cavaliers se jetèrent sur lui, l'assassinèrent sans rien lui prendre et s'enfuirent par des chemins non frayés. « Le monde, s'écria Luther, est une caverne d'assassins, sous le commandement du diable, une auberge dont l'hôte est un brigand et qui porte cette enseigne, au mensonge et au meurtre. Et il n'est personne qu'on y égorge plus volontiers que ceux qui y annoncent Jésus-Christ. » Bientôt la persécution se déchaîna ouvertement sur le Brandebourg, la Souabe et les bords du Rhin. « Cologne, Cologne !» s'écriait le martyr Fletstedt en marchant au supplice dans les rues de cette ville. « Pourquoi persécutes-tu la parole de Dieu ? Il y a un nuage dans les airs qui crèvera bientôt sur toi avec furie. » Puis, le bourreau l'ayant fait entrer dans une maisonnette faite de bois et de paille, et l'ayant fait asseoir, nu, sur un bloc, à côté de son frère, Clarenbach, déjà étranglé par les chaînes de fer qu'on lui avait serrées autour du cou, Fletstedt s'écria, « Frère, le Seigneur t'a été propice, et moi je te suis. » Alors, le feu ayant été mis à cette maison de mort, le martyr mourut étouffé. À Munich, Georges Charpentier était conduit à l'échafaud pour avoir nié que le baptême d'eau puisse sauver l'homme par sa vertu. « Quand vous serez jetés dans le feu, lui dirent quelques-uns de ses frères, donnez-nous un signe auquel nous reconnaissions que vous persistez en la foi. » « Tant que je pourrai ouvrir la bouche, répondit-il, je confesserai le nom de Jésus. » Les bourreaux l'étendirent sur une échelle, lui lièrent un sachet de poudre à canon autour du cou, puis le lancèrent dans les flammes. Aussitôt Charpentier s'écria « Jésus, Jésus !» Et, le bourreau l'ayant tourné et retourné avec des crochets, le martyr répéta encore à plusieurs reprises « Jésus » et rendit l'âme. À Landsberg, 9 hommes furent jetés dans le feu, et à Munich, 29 dans les eaux. À Schörding, Leonhard Kaiser, disciple et ami de Luther, condamné par l'évêque de Passau, eut la tête rasée, et, revêtu d'une souquenille, fut placé sur un cheval. Alors, les bourreaux s'étant mis à jurer parce qu'ils ne pouvaient démêler des liens dont ils voulaient l'enchaîner, « Chers amis, leur dit-il avec douceur, vos liens ne sont pas nécessaires. Christ, mon Seigneur, m'a déjà lié. » Arrivé près du bûcher, Kaiser regarda la foule et s'écria, « Voilà la moisson. Ô maître, envoie tes ouvriers. » Ensuite, il monta sur l'échafaud et dit, « Ô Jésus, « Je suis à toi, sauve-moi. » Ce furent ses dernières paroles. « Qui suis-je, moi, verbeux diseur ?» s'écria Luther, en apprenant cette mort à côté de ce grand faiseur. Ainsi, la Réformation manifestait par des œuvres éclatantes la vérité qu'elle était venue rétablir. À savoir, que la foi n'est pas, comme Rome le prétend, une connaissance historique, vaine, morte, mais une foi, vivante, l'œuvre de l'Esprit-Saint, le canal par lequel Christ remplit le cœur de nouveaux désirs et de nouvelles affections, le culte véritable du Dieu vivant. Ces martyrs remplirent l'Allemagne d'horreur et de sinistres prévisions, descendirent des trônes dans les rangs du peuple. Au foyer domestique, dans les soirées d'hiver, il n'était question que de prison, de torture, d'échafaud, de martyrs. Et le moindre craquement faisait trembler les femmes, les enfants, les vieillards. Ces récits grossissait de bouche en bouche, le fruit d'une conspiration universelle contre l'Évangile se répandait dans tout l'Empire. Les adversaires, profitant de cette terreur, annonçaient d'un air mystérieux qu'il fallait s'attendre, dans cette année 1528, à quelques mesures décisives contre la Réforme. Un misérable résolut de profiter de cet état des esprits pour satisfaire son avarice. Nuls coups ne sont plus terribles pour une cause que ceux qu'elle se porte à elle-même. La Réformation, atteinte d'un vertige, fut alors sur le point de se détruire. Il y a un esprit d'erreur qui conspire contre la cause de la vérité, séduisant par la ruse. La Réformation allait éprouver ses atteintes et chanceler sous l'attaque la plus redoutable, le trouble des pensées et l'éloignement des voies de la sagesse et de la vérité. Othon de Pâques, vice chancelier du duc Georges de Saxe, était un homme adroit et dissipateur, qui tirait parti de sa place et recourait, pour avoir de l'argent, à toutes sortes de pratiques. Le duc, l'ayant une fois envoyé à la diète de Nuremberg comme son représentant, l'évêque de Merseburg le chargea de sa contribution pour le gouvernement impérial. Cet argent, ayant été plus tard réclamé de l'évêque, Pâques déclara l'avoir remis à un bourgeois de Nuremberg, dont il exhiba la signature et le sceau. Cet acte était faux, même en était l'auteur. Cependant, ce malheureux paya d'effronterie, et, n'ayant pu être convaincu, il ne perdit pas la confiance de son maître. Bientôt, il trouva l'occasion d'exercer plus en grand son talent criminel. Nul n'avait plus de soupçons à l'égard des papistes que le landgrave de Hesse. Jeune, susceptible, inquiet, il prêtait sans cesse l'oreille. Or, en février 1528, Pâques, se trouvant à Cassel pour assister Philippe dans une affaire difficile, le landgrave lui fit connaître ses craintes. Si quelqu'un devait avoir aperçu quelque chose des projets des papistes, c'était le vice-chancelier du plus grand ennemi de la Réforme. L'astucieux Pâques poussa un soupir, baissa les yeux et se tut. Aussitôt, Philippe, inquiet, le pressa et lui promit de ne rien faire qu'il ne fût nuisible au duc. Alors Pâques, comme s'il se fût laissé arracher à regret un secret important, avoua que la ligue contre les luthériens avait été conclue à Breslau, le mercredi après le dimanche des Jubilatés, 12 mai 1527. Et il s'engagea à procurer l'original de cet acte au landgrave, qui lui assura pour ce service une rémunération de 10 000 florins. C'était la plus belle affaire que ce malheureux eût jamais faite. Mais aussi, elle n'allait à rien moins qu'à renverser l'Empire de fond en comble. Le landgrave était hors de lui. Il se contint cependant, voulant, avant que d'informer ses alliés, avoir vu de ses propres yeux. Il se rendit donc à Dresde. « Je ne puis, lui dit Pâques, vous fournir l'original. » Le duc le porte toujours sur lui. Pour le faire lire à d'autres princes qu'il se propose de gagner. Il l'a montré naguère à Leipzig au duc Henri de Brunswick. Mais voici une copie faite par ordre de son Altesse. Le landgrave prit le document qui portait toutes les marques de la plus parfaite authenticité. Le cordon de soie noire le traversait et était fixé aux deux extrémités par le sceau de la chancellerie ducale. Au-dessus se trouvait l'empreinte de l'anneau que le duc Georges portait toujours à la main, avec les trois écussons que Philippe avait vus si souvent, en haut le crancelin, en bas les deux lions. Il n'a plus de doute sur l'authenticité du document. Mais que dire de l'indignation du landgrave en lisant cet acte coupable? Le roi Ferdinand, les électeurs de Mayence et de Brandebourg, le duc Georges de Saxe, les ducs de Bavière, les évêques de Salzbourg, Wurtzbourg et Bamberg se coalisent pour sommer l'électeur de Saxe de leur livrer l'archi-hérétique. Luther, tous les prêtres, moines et non-apostats, et de rétablir l'ancien culte. À défaut, on envahira ces états, et on en dépossédera à jamais ce prince et ses descendants. La même mesure devra ensuite être appliquée au landgrave. Seulement, c'est votre beau-père, dit-on à Philippe, qui a fait insérer cette clause. Ces états lui seront rendus, vu sa jeunesse, s'il se réconcilie pleinement avec la Sainte Église. Le document fixait de plus le contingent d'hommes et d'argent des confédérés et la part qu'ils auraient aux dépouilles des deux princes hérétiques. Plusieurs circonstances semblaient confirmer l'authenticité de cet acte. Ferdinand, Joachim de Brandebourg et Georges de Saxe s'étaient en effet trouvés réunis le jour indiqué à Breslau, et un prince évangélique, le margrave Georges, avait vu Joachim sortir de la chambre de Ferdinand en tenant à la main un grand parchemin muni de plusieurs sceaux. Le landgrave, ému, fit prendre copie de l'acte, promit pour le moment le secret, remit à Pâques 4 000 florins et s'engagea à lui payer le reste de la somme convenue s'il lui procurait l'original. Puis, voulant conjurer l'orage, il courut à Weimar faire part à l'électeur de cette trame inouïe. « J'ai vu, dit-il à Jean et à son fils, il y a plus, j'ai eu entre les mains un exemplaire de cet horrible traité, les sceaux, les signatures, rien n'y manque. En voici la copie, et je m'engage à mettre sous vos yeux l'original. Le danger le plus affreux nous menace, nous, nos fidèles sujets et la parole de Dieu. » L'électeur n'avait aucune raison de douter du récit que le landgrave venait de lui faire. Il fut étourdi, confondu, entraîné. Les mesures les plus promptes pouvaient seules éloigner des désastres inouïs. Il fallait risquer tout pour échapper à une perte certaine. L'impétueux Philippe lançait feu et flamme. Son plan de défense était tout préparé. Il le présenta, et dans le premier moment de consternation, il emporta d'assaut le consentement de son allié. Le 9 mars 1528, les deux princes convinrent de faire usage de toutes leurs forces pour se défendre, et même de prendre l'offensive et de sacrifier leur vie, leur honneur, leur rang, leurs sujets, leurs états, pour sauver la parole de Dieu. Les ducs de Prusse, de Mecklembourg, de Lunebourg, de Poméranie, les rois de Pologne, du Danemark, le margrave de Brandebourg, devaient être invités à entrer dans cette alliance. 600 000 florins étaient destinés aux frais de la guerre. Pour se les procurer, on ferait des emprunts, on engagerait des villes et l'on vendrait les joyaux des églises. Déjà, on levait une puissante armée. Le landgrave partit lui-même pour Nuremberg et pour Ansbach. L'épouvante était générale dans ces contrées. La commotion se faisait sentir dans toute l'Allemagne et même au dehors. Jean Zapoli, roi de Hongrie, alors réfugié à Cracovie, promit 100 000 florins pour lever une armée et 20 000 florins par mois pour la solder. Ainsi, l'esprit de ténèbres et d'erreurs faisait perdre la tête au prince. s'il entraînait aussi les réformateurs, la ruine de la réforme n'était pas éloignée. Mais Dieu veillait sur son œuvre. Appuyé sur le rocher de la parole, Mélenchon et Luther répondirent. Il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Dès que ces deux hommes que le danger menaçait, car c'était eux que l'on devait livrer à la puissance papale, virent le jeune landgrave tirer son glaive, et le vieil électeur lui-même porter la main à la poignée, ils poussèrent un cri d'alarme. Et ce cri, entendu dans le ciel, sauva la réforme. Luther, Mélenchon, Pomeranus firent aussitôt parvenir à l'électeur l'avis suivant. Que l'attaque ne vienne point de notre côté et que le sang ne coule pas par notre faute. Attendons l'ennemi et cherchons la paix. Envoyons une ambassade à l'empereur pour lui faire connaître ses complots odieux. C'est ainsi que la foi des enfants de Dieu, si méprisée des politiques du monde, les conduisait droitement, alors que les diplomates s'égaraient. L'électeur et son fils, se rangeant à l'avis des réformateurs, déclarèrent au landgrave qu'il ne prendrait pas l'offensive. Philippe fut consterné. Les préparations des papistes ne valent-elles pas une attaque? S'écria-t-il. Quoi? Nous menacerons de la guerre? Et nous ne la ferons pas? Nous enflammerons la haine de nos adversaires? Et nous leur laisserons le temps de préparer leurs forces? Non, non, en avant. C'est ainsi que nous nous assurerons une paix honorable. Si le landgrave veut commencer la guerre, répondit le réformateur, l'électeur n'est pas obligé d'observer le traité, car il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu et le droit sont au-dessus de toute alliance. Gardons-nous de peindre le diable sur notre porte et de le prendre pour compère. Mais si le landgrave est attaqué, l'électeur doit lui venir en aide, car Dieu veut que l'on garde sa foi. Ce conseil que donnaient les réformateurs était désintéressé. Jamais homme ne condamné à la question n'endura un supplice semblable au leur. Aux craintes que leur inspirait le landgrave succédaient celles que leur causaient les princes ultramontains. Ce rude exercice les laissait tout meurtris. Je suis consumé de douleur, disait Mélenchon, et ces angoisses me mettent à la plus horrible torture. L'issue, ajoutait-il, ne se trouvera qu'à genoux et devant Dieu. Enfin, l'électeur, tiré en sens contraire par les théologiens et les politiques, prit un parti mitoyen. Il résolut de rassembler son armée, mais seulement, dit-il, pour obtenir la paix. Hélas, s'écria Mélenchon, le pilote doit suivre, non la route qu'il croit être la plus droite, mais celle que les vents lui permettent de prendre. Philippe de Hesse se rendit de même, et envoya aussitôt, des copies du fameux traité au duc Georges, au duc de Bavière et aux représentants de l'empereur, en leur demandant de renoncer à de si cruels desseins. J'aimerais mieux, écrivait-il à son beau-père, me voir couper un membre que de vous savoir dans une telle alliance. On ne saurait décrire la surprise des cours d'Allemagne à la lecture de ce document. Le duc Georges répondit aussitôt au landgrave qu'il s'était laissé tromper par d'impertinentes sottises, que celui qui prétendait avoir vu l'original de cet acte était un infâme menteur et un désespéré fripon, et qu'il sommait le landgrave de le lui faire connaître, sans quoi on pourrait bien le croire lui-même l'inventeur de cette fable insolente. Le roi Ferdinand, l'électeur de Brandebourg, tous les prétendus conjurés parlèrent d'eux-mêmes. Philippe de Hesse reconnut qu'il avait été trompé. Sa honte ne peut se comparer qu'à sa colère. Il avait donc justifié lui-même l'accusation de ses adversaires, qu'il appelait un jeune écervelé, et avait compromis au plus haut degré la cause de la réforme et celle de son peuple. Si cela n'était pas arrivé, dit-il plus tard, cela n'arriverait plus maintenant. Je n'ai rien fait dans toute ma vie qui m'ait causé plus de chagrin. Pâques, épouvanté, s'enfuit auprès du landgrave qui le fit arrêter, et des envoyés des divers princes que ce malheureux avait compromis s'étant réunis à Cassel, l'on procéda à son interrogatoire. Il prétendit que l'acte original de l'alliance avait vraiment existé dans les archives de Dresde. L'année suivante, le landgrave le chassa de la Hesse, montrant ainsi qu'il ne le craignait pas. Et plus tard, Pâques, découvert en Belgique, fut, sur la demande du duc Georges, toujours impitoyable à son égard, saisi, mis à la question, et enfin décapité. Le landgrave ne voulut pas avoir pris inutilement les armes. L'archevêque électeur de Mayence dut, le 11 juin 1528, renoncer dans un camp de Erskirchen à toute juridiction spirituelle sur la Saxe et la Hesse. Ce n'était pas un petit avantage. L'opinion publique fit aussi ses réserves. À peine avait-on posé les armes que Luther prit la plume et commença une autre guerre. « Que les princes impies nient cette alliance tant qu'ils voudront, écrivit-il à Link. Je sais, de science certaine, qu'elle n'est pas une chimère. Sensus insatiables, ils ne se donneront aucun repos qu'ils ne voient toute l'Allemagne baignée dans son sang. » La pensée de Luther fut celle à laquelle on s'arrêta généralement. Le document présenté au landgrave peut être, dit-on, de l'invention de Pâques. Mais tout cet échafaudage de mensonges repose sur quelque vérité. Si l'alliance n'a pas été conclue, elle a été conçue. Cette affaire eut de tristes effets. Elle souffla la division dans le sein de la réforme et attisa la haine entre les deux parties. Les étincelles des bûchers de Kaiser, de Winkler, de Charpentier et de tant d'autres martyrs accrurent encore le feu qui menaçait d'embraser l'Empire. C'est dans des circonstances si critiques et avec des dispositions si menaçantes que s'ouvrit la fameuse diète de Spire en mars 1529. L'Empire et la papauté s'apprêtaient réellement à anéantir la réformation, mais d'une autre manière que Pâques ne l'avait prétendu. Il restait à savoir s'il se trouverait dans l'Église renouvelée plus de force vitale qu'il n'y en avait eu dans tant de sexes que Rome avait facilement étouffés. Heureusement que la foi avait grandi et que la Constitution donnée à l'Église avait prêté plus de force à ses adhérents. Tous étaient décidés à défendre une doctrine si pure et un ordre ecclésiastique si supérieur à celui de la papauté. Pendant 3 années de calme, l'arbre évangélique avait poussé de profondes racines, et si l'orage venait à fondre, il pouvait maintenant le braver.